franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les jeux vidéo, toute une histoire. Mais d'abord, liminaire, parlez-vous le jeu vidéo ?
Doom était un jeu révolutionnaire dans le sens où il a vraiment introduit le FPS dans les foyers. Counter-Strike est donc un mode de Half-Life. Pour moi, ça a été la deuxième révolution sur le FPS, puisque là, on a pu s'affronter en multiplayer. Fallait une connexion avec un haut débit, fallait qu'on ait un bon ping. C'est un peu le Far West, quoi. Fallait défricher.
Je vois déjà un certain nombre d'entre vous qui se placent volontairement du mauvais côté de la fracture numérique. Pourtant, 20 millions de Français, dit-on, pratiquent les jeux vidéo. Ensemble, ils constituent aux yeux de l'industrie de l'amusement le premier marché européen en la matière. Et individuellement, ils cherchent dans les jeux un état qui n'est pas simple à décrire. Simulation, compétition, calcul, immersion. Les générations de jeux se succèdent à grande vitesse. Une génération tous les 5-10 ans. Une chaîne de télévision qui est dédiée aux jeux Game One. Actuellement, leur consacre des rendez-vous réguliers d'histoire et une exposition est organisée à Paris, au Grand Palais Game Story, prélude peut-être à un musée où trouveraient place quelques-uns des 150 000 titres que recèlerait ce vaste domaine. Domaine qu'une petite communauté de fondus cultive comme un jardin, avec le même plaisir que d'autres ont à retrouver leur première série télévisée d'antan ou leur première voiture parmi eux. Philippe Dubois, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous animez une association, et vous êtes le co-commissaire de l'exposition du Grand Palais, Game Story, vous animez une association MO5.com.
Oui, MO5.com. C'est en fait relatif au fameux Thomson MO5, que peut-être certains auditeurs ont connu lors du plan informatique pour tous en 1984, qui était en fait le premier plan voté au niveau de l'État pour informatiser les collèges et les lycées de France. Et donc, on va dire, a créé toute une souche de personnes qui baignent dans le numérique depuis 1984. Et donc, c'était important pour nous, finalement, d'adopter un nom, puisqu'on est là pour préserver et restaurer le patrimoine numérique dans son ensemble, l'histoire du jeu vidéo, mais également l'informatique, d'adopter un nom qui sonne un petit peu familier, notamment à nos membres ou aux personnes qui nous suivent.
Bref, quand on a été un enfant des jeux vidéo, on le restera toujours.
Certainement.
Est-ce que vous pouvez tenter une définition, le jeu des 1000 euros, dont sont familiers nos auditeurs du midi? On voit bien la différence avec un jeu vidéo, il n'y a pas d'écran, mais la différence avec qui veut gagner des millions à la télé?
La différence par rapport entre un jeu vidéo et un autre média, quel qu'il soit, c'est avant tout l'interactivité. C'est le fait que, bien que vous soyez là pour éventuellement vivre une histoire, vous allez interagir avec cette histoire. Et selon ce que vous avez pensé, selon votre volonté, vous allez influer sur l'histoire et donc modifier le cours de l'histoire. C'est avant tout ça, un jeu vidéo.
Donc il y a une définition par le type d'expérience ludique qu'on a, et puis il y a une définition par l'objet. On ne va pas faire la philosophie des jeux vidéo aujourd'hui, mais seulement l'histoire des jeux vidéo. On va tenter, et donc on va explorer la somme, la galerie, les générations d'objets. Alors première époque, création d'Atari, c'était une société un peu start-up à l'origine, lancée par des hommes comme Bushnell, on était en 71-72, jeux d'arcade.
Jeu d'arcade, en fait, tout simplement, parce que le premier jeu vidéo développé par Atari, qui était donc une borne dénommée Pong, eh bien, se retrouvait souvent dans les centres commerciaux sur lesquels étaient situés sous le plafond des arcades. Vous voyez simplement ces petits, ce façon monument qui habillait donc les décors de ces centres commerciaux. Et donc, on a appelé les bornes qui étaient situées dans ces centres commerciaux des bornes d'arcade, parce qu'elles étaient situées sous les arcades.
D'aucuns se souviennent des bornes qui étaient jusque dans les boîtes de nuit, dans les cafés, remplaçant les flippers.
La manette qu'on utilisait à l'époque, la manette que j'utilisais, c'était une sorte de manche à balai avec un bouton rotatif qui permettait juste de faire haut-bas au niveau de l'écran. Et donc il y avait deux manettes comme ça et on pouvait jouer à deux. Donc il fallait s'imaginer que Pong, c'était censé être un jeu de tennis, c'est quand même que juste deux barres avec une balle, on va dire. Et il y avait un mode deux joueurs où on pouvait mettre les deux barres d'un côté pour faire une équipe de foot. On pouvait jouer aussi en mode volé, mais tout était dans l'imaginaire parce que c'était toujours le même jeu. C'est juste qu'ils rajoutaient une barre au milieu pour faire un filet, ou alors ils mettaient les deux joueurs d'un côté et puis deux joueurs de l'autre en plus. Donc ça faisait quatre barres. Donc c'était vraiment très, très imagé, on va dire.
Et avec le principe que la balle ne disparaisse pas de l'écran et d'essayer de l'échanger à l'infini avec le joueur adverse.
C'est pas vraiment à l'infini, parce que quand la balle passe derrière la raquette, on perd un point. Et donc, à force d'en perdre, y a un compteur au-dessus. Et quand on voit que son copain, il en a plus que nous, c'est un peu rageant. J'y ai joué récemment avec un copain. On n'aime pas perdre même dans les jeux-là.
Oui, souvenons-nous de ces premiers jeux. Pong, par exemple, à partir de 72, on ne gagnait jamais. On est dans l'impossibilité de gagner. On est dans une situation de perte de contrôle. Ça s'accélère peu à peu et...
Oui, exact. On peut dire qu'il y a une délimitation qui est le score, mais finalement sur lequel on peut influer, on peut mettre le score que l'on voudrait, mais finalement le seul but quelque part de Pong, c'est juste de s'amuser, tout simplement.
L'association avec le téléviseur, est-ce qu'on doit la dater de cette époque, de notre première
Totalement, c'était la volonté du créateur de la première console de jeux vidéo, qui est la Maniavox Odyssey, qui est une console mitoyenne au Pong d'Atari. Sa volonté, c'était réellement de construire un dispositif interactif que l'on allait brancher à sa télévision familiale. C'était ça son idée. D'où la naissance du jeu vidéo familial et des consoles de jeux.
Alors le lien avec le cinéma, parlons des arts déjà connus. Le lien avec le cinéma, on y pense dès cette première période des années 1970. Écoutez France Roche. Sur Antenne 2, elle était la journaliste spécialisée cinéma. Et c'est à elle, ne faites pas l'amour, Philippe Duhois, c'est à elle que revenait la tâche de présenter non seulement les tennis vidéo, comme elle disait, mais aussi les films où apparaissait l'ordinateur.
Tron, quand vous offrez à vos enfants un jeu électronique, un tennis vidéo sur télévision, vous croyez qu'ils ne voient dans ces jeux que des petits trucs blancs qui font bip bip, mais pas du tout généralement. Ils se mettent à la place des joueurs de tennis. Eh bien, Walt Disney a décidé de se mettre à la place des enfants. Et Tron est en quelque sorte un Alice au pays des merveilles, où au lieu de passer au-delà du miroir, les spectateurs, s'identifiant au héros, passeraient au-delà de l'ordinateur. Alors là-bas, il fait assez nuit, il y a de belles couleurs fluorescentes, et puis il y a un monsieur qui s'appelle Box Leitner, et à qui on demanderait bien des leçons d'électronique.
Chacun recevra un disque d'identité. Chacun de vos actes, chaque acquisition sera implantée sur ce disque. Si vous le perdez, ou si vous manquez à vos commandements, vous ferez l'objet d'une immédiate éradication.
Chef de groupe, regagnez vos postes de commande.
Hé, hey, qui c'est celui-là?
C'est Tron qui se bat pour les concepteurs.
Tron.
Là, on rigole plus, hein. On se bat déjà, on est au tout début des années 80, toujours dans notre première époque.
Ça a souvent été la guerre dans le jeu vidéo, hein, puisque notamment les premiers d'entre eux dans les années 80 tiraient leur imaginaire de films de science-fiction tels que Star Wars, etc., dans lesquels, massivement, comme on le sait, il y a avant tout des batailles à coups de laser, de vaisseaux spatiaux.
Alors vous parlez de films de science-fiction, on entendait France Roche dire que les jeux vidéo, c'était de la sur-télévision, étrange formule, mais les critiques de cinéma de l'époque pensaient que les jeux étaient du sous-cinéma.
Parce que à l'époque, il fallait bien donner des contenus aux jeux vidéo naissants. Il fallait bien que les premiers créateurs de jeux vidéo s'inspirent de quelque chose de, notamment de populaire. On peut parler notamment du cinéma, donc du début des années 80, avec la science-fiction, avec les films de commandes dans les rues que l'on va voir plutôt arriver au milieu des années 80. Ça a toujours été, en tout cas pendant très très longtemps, une source d'inspiration quasi illimitée pour les créateurs de jeux vidéo.
Alors, il faut faire quand même attention dans les adaptations. Certaines échouent dans l'exposition Game Story. Vous insistez sur l'échec de l'adaptation au jeu de E.T.
Tout à fait.
Ça fait beaucoup d'invendus, ça fait des stocks qui mettent en péril les entreprises. Il y a bien d'autres causes aussi aux difficultés que va connaître Atari, la société fondatrice. Enfin, il y a des difficultés qu'en France, où on rend peut-être compte avec un certain retard des choses, on ne saisit pas, puisque en 82, on entend encore ceci à la télévision française.
Atari va donc déferler sur la France. Pour certains, c'est la catastrophe, car cette puissante société américaine va rafler tous les marchés. Pour d'autres, c'est un bien, car Atari va donner une image aux jeux vidéo et aux micro-ordinateurs à la maison, une image d'objet de consommation courante à relativement bon marché.
Atari, c'est une société 100% américaine, puisque c'est une filiale de la Warner, que vous connaissez. et qui a une caractéristique intéressante, c'est d'avoir eu la progression la plus grande de toute l'histoire des États-Unis. En effet, en 1976, Atari faisait 40 millions de dollars, pardon, et en 1980, Atari a fait 25 fois plus de chiffre d'affaires, c'est-à-dire a dépassé le milliard de dollars, soit 6 milliards de francs de chiffre d'affaires.
Antenne 2, 1982-1983, le crack.
Le crack des jeux vidéo, alors c'est extrait de sonore est très drôle parce qu'effectivement, à peine un an plus tard, eh bien, le marché des jeux vidéo familiaux aux États-Unis s'écroule totalement. En l'espace de seulement 6 mois, le fabuleux chiffre d'affaires dont faisait mention ce monsieur est divisé par 10. Et pourquoi ? Sans rentrer trop dans le détail, parce que trop vouloir exploiter le filon, c'était lancé un trop grand nombre d'éditeurs qui avaient lancé un grand nombre de jeux vidéo différents mais qui étaient tous très mauvais. Et donc le public finalement commence à délaisser massivement les consoles de jeux familiales en se disant « excusez-nous, on nous prend un petit peu pour des pigeons ».
Ouf, c'est la mort du jeu vidéo, se dit notre réalisateur Jacques Sigal. Que nenni ! Parce que aussitôt après, 84-85, Atari a délocalisé sa production dans le sud-est asiatique. On voit les Japonais prendre l'initiative.
C'est un petit peu le soleil levant du jeu vidéo, effectivement, notamment au Japon avec la firme Nintendo, qui elle, en fait, patiemment attendue depuis 1983 avec une console de jeu qui s'appelait la Famicom.
Une console, qu'est-ce que c'est ? On n'a pas dit.
Une console, qu'est-ce que c'est ? C'est un instrument, un outil que l'on branche sur sa télévision, en tout cas jusqu'à un certain moment, et qui permet donc de jouer aux jeux vidéo, tout simplement.
Alors, Nintendo invente, au milieu des années 80, une console d'un type inédit.
D'un type inédit, et surtout, en fait, il réinvente le marché du jeu vidéo et c'est ça qui va permettre de sauver le marché familial du jeu vidéo sur console de jeu à partir à peu près des milieux des années 80 et en mettant justement, finalement, des contraintes en termes de qualité de jeu. C'est-à-dire qu'il est terminé que d'innombrables éditeurs sortent tout n'importe quoi et donc aient tué le marché en 83. Avec Nintendo, les éditeurs s'adressent à Nintendo et doivent valider avec eux que le jeu vidéo qu'ils veulent vendre est suffisamment bon pour être réellement lancé.
Contrôle de qualité, contrôle de moralité aussi.
Un petit peu, oui.
On va par exemple entendre un écho fort doux d'un jeu qui privilégie les valeurs éternelles, féminines, maternelles, et qui s'appelle...
Un petit détour par le Japon pour faire connaissance avec le nouveau héros vidéo, la nouvelle star des jeux vidéo qui branche des milliers de petits japonais là-bas. Il s'appelle Super Mario, sans Patrice, créé de toutes pièces par une compagnie de micro-ordinateurs, personnage à la casquette plate, au gros nez et à la moustache caractéristique pour les japonais sans doute, de la péninsule italienne. Avec son frère Luigi, Mario apparaît sur des centaines de milliers de petits écrans. Il est le fruit de l'imagination du dessinateur humoristique Shigeru Miyanota, avec l'accent dans le texte. Et c'est l'enchaînement dramatique, c'est-à-dire les t-shirts, les chaussures, papier à lettres, chocolat, nouilles, glaces et dessins animés à son effigie. Planquons-nous. Ah, j'ai peur.
Antenne 2, tout n'est pas mauvais sur Antenne 2. Antenne 2, 86, un animateur très apprécié des enfants à l'époque.
Effectivement.
Qui s'appelait
Monsieur Drevet.
Ben oui, Patrice.
Tout simplement,
oui,
Patrice.
Il dit d'ailleurs son prénom.
Et son fils d'ailleurs continue d'être très actif dans les jeux vidéo. Il fait partie de notre association. Juste une petite correction à ce qui a été dit, c'est Monsieur Miyamoto. Voilà.
Oui.
Le créateur.
Mais vous parlez de correction, parlons de croisement et de carrefour. Super Mario, qui est toujours à la recherche de sa princesse, et la princesse qu'il cherche, elle est toujours dans un autre château. Super Mario, c'est une rencontre avec l'industrie du jouet, Nintendo, c'est du jouet avec l'industrie et les couleurs du dessin animé aussi.
Nintendo, il faut le savoir, avant de produire des jeux vidéo, ils avaient déjà une existence de plus d'un siècle comme fabricant de jouets exclusivement, avec notamment un ingénieur très connu, parce qu'il inventa notamment quelques consoles de jeux, c'est Gunpei Yokoi, qui était un des ingénieurs clés de Nintendo qui inventait des jeux absolument fantastiques. Et donc Super Mario Bros, non seulement c'est un personnage sympathique en soi, puisqu'on a un petit plombier moustachu, soi-disant italien, un petit peu bononnant, donc on est loin des caricatures qu'on peut voir dans d'autres jeux vidéo, donc on a envie de s'y attacher finalement à ce personnage. Et l'univers qui est décrit dans Super Mario Bros, c'est vraiment enfantin, lié au conte de fées, parce qu'on va sauvegarder, on va essayer de sauver notre princesse, un thème vraiment très récurrent dans l'histoire des jeux vidéo.
Mais les collectionneurs regardent avec nostalgie ou parfois avec sévérité ce jeu qui serait trop puéril et qui est quand même celui qui s'est le plus vendu jusqu'à il y a peu d'années.
C'est, non seulement c'est un jeu qui s'est extrêmement bien vendu, déjà sous sa forme originelle sur la Nintendo NES, hein, au milieu des années 80, et qui plus est, comme on le sait, c'est une saga qui continue, c'est la mascotte principale, le personnage fétiche de Nintendo, et qui continue d'être produit sur les consoles même modernes.
Alors cette période des années 80, ou du début des années 80, voit l'hégémonie japonaise, mais enfin il y a quand même d'autres producteurs qui ont de l'importance, des Français ?
Quelques Français notamment, au milieu des années 80, on voit naître quelques-uns des plus grands studios en termes de création ou d'imaginaire lié aux jeux vidéo, avec certains des créateurs les plus reconnus, Paul Cuisset, Philippe Ulrich, Frédéric Rénal, Éric Chailly, etc., qui vont produire réellement jusqu'au à peu près au début des années 2000 un mouvement créatif dans le jeu vidéo, donc reconnu de son essence française, avec ce qu'on dénomme donc la French Touch dans le jeu vidéo.
Il y a même une niche soviétique aussi dans cette deuxième période au début des années 80, qui a très bonne presse, autant je ne sais pas que le cinéma d'animation tchécoslovaque avait bonne presse face à la production Walt Disney. Par exemple, à France Culture, où une rubrique dans Panorama de Michel Bidlowski est consacrée non pas aux jeux vidéo communs, mais aux jeux de réflexion.
Actualité des jeux de réflexion, commençons par Tetris. Tetris qui est un jeu informatique d'origine soviétique, mais qui vient d'être traduit en anglais, c'est
en
ça
anglais, oui. Comme tous les jeux venant de l'Est, ce sont des jeux principalement mathématiques.
C'est un jeu de réflexion basique d'arcade où en fait vous devez imbriquer des formes qui apparaissent en haut de votre écran. Et une fois qu'elles sont posées en bas de l'écran, là, elles ne bougent plus. Et en fait, le but, donc, c'est de les emboîter afin de former le plus possible de lignes. Parce qu'en fait, votre image à l'écran augmente quand vous posez vos formes. Et une fois que vous atteignez, en fait, sans avoir fait de ligne, une fois que vous atteignez le haut de l'écran, malheureusement, vous avez perdu. C'est un jeu de réflexion. C'était à vous d'anticiper, de réfléchir pour pouvoir donc les imbriquer intelligemment et former votre ligne. Après, vous aviez des points bonus si vous formiez 10 lignes d'un coup et c'était super.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les jeux vidéo, toute une histoire avec Philippe Dubois qui est le co-commissaire de l'exposition Game Story qui dure jusqu'au 9 janvier 2012 au Grand Palais à Paris où on peut jouer par exemple à Tetris.
Exactement.
Tetris qui n'a pas donné lieu, on va passer à la troisième période maintenant, rassurez-vous chers auditeurs qui n'aimaient pas les jeux vidéo, on n'ira pas jusqu'à la sixième. Tetris qui n'a pas donné lieu à un culte, qui a donné lieu à un culte mais pas à une lignée.
Pas réellement une lignée, si ce n'est ça a quand même lancé la catégorie de jeux vidéo. On parle de plusieurs catégories, on va aborder celle du first-person shooter.
Pardon ?
Du first-person shooter,
vous le jeu à la première dans personne, un instant.
Je vais vous l'expliquer. Mais Tetris a lancé quand même la catégorie des puzzle games, c'est-à-dire les jeux dans lesquels en fait, il y a comme un puzzle et on doit imbriquer des pièces entre elles pour réussir la mission qui nous est donnée.
Alors, troisième époque, nous abordons maintenant le début des années 90. Oh, bon, je vais le dire beaucoup plus savamment que vous. FPS,
jeu de tir à la première personne. Donc c'est un genre de jeu qui marche très très bien encore de nos jours, hein. D'innombrables FPS sortent encore sur les consoles modernes. Et donc c'est un genre dans lequel en fait vous pouvez figurer que ça, c'est un petit peu de la réalité augmentée, en tout cas ça calque sur la réalité. En gros, ce que vous voyez à l'écran, c'est comme si vous teniez vous une arme ou quel que soit l'objet d'ailleurs, et que vous avanciez dans des corridors. C'est ça en fait, un first person shooter, c'est se mettre à la première personne, à la place de votre avatar et de jouer à ce jeu vidéo.
Je suis la personne à la place de mon avatar là, sur l'écran, non seulement je vais avoir à tirer parce que ça menace dans tous les sens et je vais même sûrement avoir peur.
Alors c'est un FPS à la première personne et on est coincé dans un labyrinthe avec des zombies. Là, hop là, et je l'ai loupé. On doit les tuer avant qu'ils nous tuent. C'est rempli de pièges et ça fait très peur s'ils surgissent de n'importe où.
C'est quand même les portes de l'enfer qui sont ouvertes sur Mars, quoi. Donc c'était assez crispant, assez stressant. Du zombie dans tous les sens, du monstre et tout ça, bien qu'il était très pixelisé à l'époque, donc moche en gros. On avait quand même une véritable impression, par la vue à la première personne en fait, d'immersion, quoi. Très très forte, très intense.
Et effectivement, il faut être très réactif, il faut être capable de tirer, de courir, de sortir d'une situation. On voit son bonhomme en plus qui s'affiche tout le temps en bas, et plus on prend de coups, plus sa gueule est en sang. Donc on a en même temps pas tellement envie qu'il se prenne énormément de coups, donc on essaie de le gérer. Et bon, moi c'est vrai que personnellement, c'est un jeu qui m'a énormément retourné. J'en ai fait plusieurs cauchemars, hein, où je le revivais, quoi. J'affrontais les monstres avec mon fusil à pompe, seul dans les couloirs, d'un espèce de bunker super glauque. Voilà.
Oui, les murs d'une cave humide, glauque, avec des personnages, j'insiste, moches.
C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu la terreur tout de même, le jeu dont on parle ici.
La terreur, donc... oui, alors là, vous me branchez sur la question inévitable. Doom a été banni en Allemagne, a posé problème en Angleterre. Les jeux sont assez prudes, ils sont souvent violents.
Ils sont d'autant violents que peuvent être finalement les univers des enfants eux-mêmes qui se battent à la cour de récré et qui jouent aux cow-boys ou aux indiens et s'étirent dessus. Et finalement dans Doom c'est un petit peu ça, si ce n'est qu'effectivement en 1993 lorsque sort le jeu Doom, il a apparemment cette caractéristique propre, même si la personne qui parlait dans l'interview a sorti le terme moche.
C'est un visiteur de votre exposition.
Hein. Oui d'ailleurs, je sais même qui c'est d'ailleurs, mais bon il a sorti le terme moche, il faut juste recadrer par rapport à l'histoire, par rapport à l'époque, les spécificités techniques, les caractéristiques graphiques des machines de l'époque ne permettaient pas d'avoir un habillage graphique suffisant pour qu'on puisse parler de photoréalisme.
Oui, puis alors pour que ce soit moins moche, vous pouvez prendre l'option 100-100, S-A-N-G, parce qu'il y a une option 100 et une option 100-100.
Ça fait partie du lancement des niveaux où on peut choisir sa difficulté. Donc, je crois que la dernière difficulté, c'est l'ultra cauchemar, me semble-t-il. Bon, c'est très significatif.
Tout de même, c'est quand même étrange ce que vous appelez le scoring dans votre vocabulaire, des vies qu'on abat dans le jeu et qu'on compte en même temps.
C'est une spécificité du jeu vidéo qui le rend intéressant en termes d'expérience. C'est que dans le jeu vidéo, on a plusieurs vies. Donc, même si on perd parce qu'à un moment donné, on doit sauter dans un gouffre et on manque son saut, eh bien, on peut recommencer. Ça. Effectivement, par rapport à la réalité, il y a encore des ponts qui ne sont pas dressés.
Alors, on l'a dit qu'on ne faisait pas une philosophie ni une morale des jeux vidéo, mais une histoire. Enfin, on peut peut-être conclure en disant que c'est le joueur qui se fait violence à lui-même, parce qu'il va nécessairement, je reviens sur ce thème, vers la défaite qu'il ne peut que retarder.
Même s'il y a des jeux vidéo, il y en a de plus en plus d'ailleurs qui ont des buts réels à atteindre. Effectivement, il y a même eu des livres là-dessus. Le fait de perdre dans un jeu vidéo est un acte finalement tout à fait normal. Hein. Et les créateurs de jeux vidéo pensent également à cela. Donc vous avez plusieurs fins différentes, notamment lorsque vous perdez à différents endroits, etc. Donc il ne faut pas avoir peur de cela, au contraire. Hein. Ça fait partie de l'expérience du jeu vidéo. Et il faut continuer, recommencer, apprendre de ses erreurs. Et c'est en soi que le jeu vidéo peut, à un moment donné, éventuellement servir à l'apprentissage.
Oui, ça, c'est ce que vous dites. On parlera du rôle dans l'apprentissage de l'histoire, mais quand vous observez un enfant, quand vous vous observez vous-même, les adultes fascinés par le retour au jeu d'autrefois, vous ne vous sentez pas dans un état d'alu, pas hallucination, d'allusimulation.
Allusimulation, c'est un bon terme. Effectivement, les univers qui sont créés pour nous, joueurs de jeux vidéo, sont des univers qui vont essayer de rompre finalement ce que l'on connaît de la réalité en termes de lois physiques qui régissent, etc. Pour accéder à un nouvel imaginaire. Alors, il peut être un petit peu effectivement à portée violente, mais on n'est pas obligé de jouer à des jeux vidéo violents. Hein. On peut très bien faire son tri. Et il faut bien voir que peut-être n'y a-t-il que finalement 20% ou 30% de tous les jeux vidéo qui sont créés qui sont réellement à caractère violent. Donc ça laisse beaucoup de place pour des jeux vidéo à caractère plutôt enfantin, un peu comme Mario, dans lequel on va baigner dans un univers digne de nos rêves d'enfants.
Vous connaissez Blueberry Green ? C'est un jeu indépendant. On crée son petit jardin et alors les graines poussent, mais il y a des méchants prédateurs. Alors il faut lutter contre les prédateurs pour aménager le paysage paisible dont on peut rêver. Nous sommes tous le jouet de choses absentes qui n'ont même pas besoin d'exister pour agir. On n'a même pas besoin maintenant d'avoir la console, parce qu'une nouvelle étape, allez, on va arriver à la cinquième ou sixième génération directe, est intervenue depuis que les jeux en ligne relient entre eux les utilisateurs de Facebook, les utilisateurs de téléphones mobiles, de réseaux sociaux, etc.
Tout à fait. Le phénomène des MMORPG, c'est un petit peu difficile. Oui, je suis désolé, c'est un terme un petit peu complexe, mais qui signifie simplement des jeux vidéo à univers persistant. Univers persistant, cela veut dire que vous vous connectez souvent via Internet à un jeu vidéo. Celui-ci, vous êtes plusieurs, potentiellement millions de joueurs d'ailleurs à travers la planète à vous connecter peut-être des fois en même temps, mais surtout l'univers auquel vous avez affaire, dans lequel vous évoluez sous la forme de votre avatar, de votre personnage, lui, au moment où vous déconnectez, continue de vivre. C'est pour ça qu'on appelle ça les univers persistants. Et c'est un type de jeu qui s'est développé dès le début des années 2000, avec notamment l'arrivée de gros mastodonte qui s'appelle World of Warcraft, et finalement dans lequel il y a plusieurs millions de joueurs partout à travers la planète qui vivent des aventures absolument rocambolesques dans un univers type aventure moyenâgeuse avec de la magie et donc poursuivent des quêtes absolument fantastiques sur des longues durées.
Mais ça vous appelez le gros mastodonte, c'est le réseau, parce que pour les jeux en ligne... on n'a pas besoin d'avoir des super productions.
Le jeu en ligne en lui-même, donc les MMORPG, les jeux à univers persistant, sont eux-mêmes une catégorie des jeux en ligne. Et les jeux en ligne, c'est simplement le fait de se connecter, notamment souvent, en tout cas via Internet, à un serveur sur lequel vous allez pouvoir jouer à n'importe quel contenu, finalement. Et on a accès maintenant à des... notamment grâce aux réseaux communautaires comme Facebook ou autres, à des petits jeux en ligne qui sont souvent de la même catégorie que Tetris ou si c'est simple que ça. Le but étant simplement, finalement, de passer un bon quart d'heure en attendant peut-être dans le métro ou en passant...
Le jeu en ligne relance la possibilité de la production indépendante, de la production légère ou du retour en arrière, tandis que d'un autre côté, on voit des super productions qui nécessitent la multiplication de produits dérivés, de productions de films parallèles, écraser peu à peu les plus petits des producteurs, y compris les Français, parce qu'il reste quoi ? Une grande société française et puis 249 petits producteurs.
Oui, peut-être deux grandes sociétés françaises, mais beaucoup de petits éditeurs, et notamment d'éditeurs qui sont très actifs dans le domaine.
5000 emplois pour les jeux vidéo en France, c'est pas beaucoup, quand même, par rapport aux possibilités et aux promesses du temps passé. Mais on n'est pas là pour parler du « made in France », du « fabriqué en France », mais peut-être pour parler d'histoire. Alors, la question de l'utilisation de l'histoire dans les jeux vidéo. Il infuse ses codes à la société d'aujourd'hui, mais pourrait peut-être aussi influencer les représentations que nous avons du passé. Ici, nous sommes au moment de la guerre civile, dans les années 48-49 avant Jésus-Christ. On n'est pas du côté de César à Rome, mais du côté de Pompée.
Tirez les rangs, observez vos officiers et suivez leurs ordres. Aujourd'hui, nous sommes opposés à ces fiers Romains que sont les Julies, des ennemis de valeur. Ils nous sont supérieurs en nombre, c'est vrai, mais notre réputation doit leur mettre la peur au ventre. Nos dieux nous observent. Montrez-vous dignes de...
Bon alors, les questions qui se posent, c'est est-ce que la représentation est exacte ? Est-ce que Pompée, là c'est un général de Pompée, je le répète, avait vraiment moins de troupes que César ? C'est pas sûr. Mais le charme pour l'historien, ou l'apprenti historien, c'est qu'on peut changer le cours de l'histoire. Pompée pourrait l'emporter sur César.
Dans un jeu vidéo, effectivement, il y a toute une catégorie d'entre eux qui s'appelle les jeux de simulation, simulation de guerre, etc., dans lequel en fait les créateurs de jeux vidéo ou les éditeurs font appel à des historiens pour recréer toute une ambiance, toute une époque autour d'un thème donné. Donc il y a les fameux jeux de simulation de guerre de la compagnie très connue Microsoft sur le thème des jetons des campagnes de César, les campagnes napoléoniennes. Enfin, on peut revivre beaucoup de moments de l'histoire. Et ce qui est amusant dans un jeu vidéo, c'est qu'effectivement, peut-être pour Waterloo, on peut être envisagé, on peut être amené à gagner la bataille.
Et puis on peut peut-être même envisager des jeux qui porteraient sur des questions d'idées, de civilisation, de jardin, mais je ne veux pas reciter Blueberry Green. Merci à vous, Philippe Dubois.
Merci à vous.
Votre exposition Game Story jusqu'au 9 janvier 92 au Grand Palais à Paris.
Attends, c'est de la folie cette console! Même ma mère s'est mise à la Wii. La Wii de ma mère.
C'était le codicille de Jacques Sigal. Cette émission a été préparée collectivement par toute l'équipe des plus jeunes de la marche de l'histoire, Meryl Moneghetti, Franck Olivard et Frédéric Martin, qui sont des enfants des jeux vidéo et qui le resteront. À la technique, Pascal Baldassari et Cédric Lalanne.